Bah oui, elle prend mieux y'a que ça, le second ça existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 213. Je suis Daniel Andreev et de l'autre côté du poste, j'ai le combattant de tous les extrêmes, Stéphane Boulet.
Exactement, lui-même, effectivement. Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, voilà.
Est-ce que je peux te demander, Stéphane?
Oui.
Et c'est un peu le truc, c'est comment tu vas?
Je deviens le joker, comme dirait l'autre. j'en suis au stade où je deviens le joker. Bah écoute, non, mais comme tu l'as dit, voilà, je suis en lutte contre tous les extrêmes, l'extrême limite, l'extrême préjudice, l'extrême onction.
Surtout, ah, l'extrême onction, c'est la pire.
Voilà, beaucoup en lutte contre les extrêmes onctions parce que ça se fait pas. Non mais écoute, voilà, c'est ma foi, est-ce le dernier épisode de Super Ciné Battle que nous enregistrons dans la France libre? Peut-être on va devoir.
Je vais essayer de le monter très vite pour que les gens l'aient avant le second tour, puisque nous enregistrons juste avant le second tour. Mais tu sais quoi, on est là comme deux couillons à enregistrer ça entre les deux second tours et en sachant pas à quel moment on va diffuser. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit assez rapide. Mais bon, ça dépend que de moi. Bah ouais, mais tu sais, genre, peut-être que j'aurai mercredi, que j'ai quand même mon fils à garder. Donc tu vois, j'ai mercredi qui saute, je pourrais pas monter. Mais bon, peu importe, ça c'est vraiment du détail de fabrication. Je pense à ces couillons de Soumimasen Turbo qui vont enregistrer le samedi juste avant le second tour.
Ouais, mais non, mais Soumimasen Turbo, c'est vraiment des glandus, tu vois, à un moment donné.
Il travaille un jour chômé, là, qu'est-ce que se passe là? Et on enregistre samedi, je sais pas comment on va tourner ça.
Écoute, je vous souhaite bien du courage.
Bah ouais, écoute. Tu sais, Greg, il va revenir du Japon, il ne sera même pas au courant, tu sais.
Oui, ça fait. Alors, les gars, ça va? Passez une bonne semaine.
Alors, comment te dire? Au Japon? Ah oui, non, le Japon, pardon, j'ai oublié.
C'est ça.
Tu sais, il y a toujours ces gens, et tu vois régulièrement sur Internet, c'est qui s'esclaffe, ou je sais pas comment dire autrement, devant une news japonaise qui a l'air de suggérer que le Japon est un pays quand même très ancré à droite, et genre, alors, et en général, j'ai déjà vu ça écrit, hein, genre, ils disent, alors les bandeurs du Japon, mais tu sais, genre, comme si on n'était pas au courant, tu vois, que.
C'est ça. ou ce mec qui sort effectivement une mesure du Japon avec une photo de Shinzo Abe, il fait, alors les Japonais c'est des fascistes? Alors, Shinzo Abe, comment dire? Bon. Si tu l'avais laissé faire, bon. Voilà.
Disons que, tu sais. Comme,
pas le bon exemple.
Comme me disait un ami qui. Enfin, un mec que je connaissais plutôt, et. Bon, un ami, c'est le père d'un ami, mais. Un mec que je connaissais, qui lui a connu les geôles staliniennes, il me disait: tu sais quoi, Daniel, tout est une histoire de curseur. Et tu sais quoi, il a été en tôle en URSS à l'époque, tu vois. Il sait ce que c'est que le curseur. Ah, nous les Russes, on s'est rigolé de tout ça.
Oui, c'est ça. C'est...
Plus aujourd'hui, hein, visiblement, mais on savait à l'époque.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il vaut mieux éviter de rigoler de ce genre de choses. Tu sais jamais trop où tu vas finir. Voilà.
Oh là là.
Surtout si tu habites au dernier étage de ton immeuble. Globalement, ouais. C'est quand même. Faut mieux éviter, quoi.
Ah oui, bien sûr. Puis pas croiser des voisins suspects aussi.
Je sais pas si t'avais vu cette image qui m'avait fait rire sur internet, mais une photo d'un accident qui avait eu lieu avec une bagnole qui était tombée d'un. Tu sais, les grands parking de centre-ville à Moscou,
ouais.
qui était tombé en fait, et qui s'est étalé sur le trottoir sans faire de victime, et quelqu'un a posté le message disant: ah, cette voiture a-t-il dit du mal du Kremlin?
Ah, c'est... Fut un temps, je rigolais des dashcams russes, maintenant je trouve que c'est trop politique.
Ouais, c'est... faut faire gaffe, ouais.
Bon, évidemment, vous l'aurez compris, on est à un moment un peu charnière de notre vie en général, on peut même le dire,
du
destin de la France même, on peut le dire. Donc est-ce que ça aura un impact sur cet épisode? Je peux vous garantir que ça sera un épisode, je vais essayer de le faire plus court, comme ça je le montrerai plus vite, mais je pense que ça sera un classico, là. Là, je pense qu'on est sur un bon travail. Je pense que, tu sais, les gens qui étaient là, ils s'en souviendront à ce moment-là.
Un peu comme l'épisode avec Ophélie Winter.
C'est un peu le fait l'épisode de Ophélie Winter. Ou, tu vois, l'épisode des 7 samouraïs, qui, rappelons-le, les 7 samouraïs sont au top des années de 1950, ce qu'on traite.
Oh là là, mais ce travail sur les transitions, Daniel, incroyable.
7 samouraïs. Donc, qui est premier, et il a été reviewé dans l'épisode 153, juste devant Sueur Froide.
Juste devant Sueur Froide, qu'on a abordé, il y a finalement deux épisodes, c'est tout. Donc, il y a très très récemment. Et la question que je te pose, Daniel, est-ce que les 7 samouraïs, étant premier du classement, ne serait-il pas un extrême qu'il faudrait combattre? voilà. Parce que, voilà, on l'a dit quand même, Super City Battle, podcast apolitique, vous le savez, et qui combat tous les extrêmes, et voilà.
Oui,
et
tous,
voilà. Même les extrêmes arrondis, les extrêmes indécis, ou...
Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je sais pas si je devrais, parce que l'épisode il va pas. Mais je pense que pendant ces derniers jours-là, on voit qui a une colonne vertébrale en France ou pas.
Ah oui, bah ça oui, c'est...
Et je voudrais dédier cet épisode. D'abord, à tous les gens qui nous écoutent. Ensuite, à tous les gens qui nous soutiennent sur patreon.com/rpu. Continuez de le faire. Merci, c'est grâce à ça qu'on peut continuer. Et donc, patreon.com/rpu, c'est pour nous soutenir. Et je voudrais aussi dédier cet épisode en particulier à certaines personnes qui, pour faire barrage au RN, vont devoir voter Aurore Berger. Si toi, tu es dans ce cas, et je sais que statistiquement, il y a des gens qui sont de là-bas et qui doivent voter Aurore Berger pour faire barrage, je vous fais des cœurs avec les doigts. C'est pas très radiophonique, mais voilà. Je vous adresse tout mon soutien.
Tu sais, ces gens-là, et en plus, le truc, c'est que j'en connais un personnellement qui va glisser un bulletin Aurore Berger dimanche. Ces gens-là, je pense qu'on va leur dresser un hôtel, tu sais, et on va allumer des cierges, parce que quand même, c'est vraiment un sens du sacrifice que justement même l'Empire du Soleil Levant n'aurait pas exigé, tu sais, de ces sujets. Quoi.
Ah ouais, non, tu sais, c'est beaucoup ça, voilà.
C'est ça, c'est exactement. Et ils vont le faire, et pour ça, merci. Pour ça, merci.
Ouais, je pense que, tu sais, il y avait Iwo Jima, et maintenant, il y aura...
Il y aura ça.
Il y aura la circonscription de Aurore Berger.
Ouais.
Ah putain, on les voit, hein, ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale, hein, quand même.
Oui, oui, et étrangement, c'est des profils où on n'est pas tellement étonné que ça, finalement.
Non, pas tu tellement. Non.
Pas tellement, bizarrement.
Non, tu sais quoi? Tu sais quoi? On n'est jamais... Ah, mais tu sais quoi? Fucking Bruno Le Maire. Excusez-nous, hein, mais on s'est pas parlé en vrai. On s'est envoyé des messages depuis, mais on est chaud comme la presse, putain de sa mère.
Non mais Bruno Le Maire, jusqu'au bout.
Ah là là, il faut pas que je dise des gros, parce que sinon après on peut pas les insulter en public. Mais quand même.
Quand même, sachez que bon, en privé,
quand même, ils ont la colonne vertébrale d'une endive mouette, quoi.
C'est ça. Et non, mais ce qui est drôle, c'est que il y a quand même une vraie scission qui se fait entre les vieux leaders de micro-partis à la con là, parce que tu parles de Bruno Le Maire, mais l'ancien premier ministre, comment il s'appelle là?
Raffarin.
Ah oui, Raffarin, oui. Celui de Macron.
Celui de Macron attends, lequel?
Édouard Philippe, voilà. Édouard Philippe, c'est la même. Et à contrario, t'as quand même Gabriel Attal qui a le courage de dire, il fait bon, les gars.
Ouais, Gabriel Attal, il est un peu obligé. On lui a niqué son job d'été. Franchement,
c'est clair. On lui a niqué son stage de seconde, là, et voilà.
Non, littéralement, c'est genre, il avait prévu de travailler un petit peu l'été. Il allait partir un petit peu en vacances, tu vois, genre une petite semaine pour.
Il était là, ouais, c'est sympa les JO et tout. bah non. Privé de JO.
Ah, mais le mec,
privé de JO, Gabi.
Putain, mais il pensait qu'il allait aller au JO.
Non, mais au moins Gabriel Attal, tu vois, il a quand même dit bon, voilà, peu importe qui est en face, du moment que c'est pas RN, votez pour, quoi. Et mine de rien, il y a une vraie scission. C'est pareil, la leader des jeunes avec Macron, elle s'est retirée en faveur de je crois que c'était François Ruffin sur sa circo, etc. Enfin, voilà. Par contre, les vieux décrépits avec leurs attributs sexuels en forme de vieux raisins rabougris, là.
Ou Aurore Berger.
ou Aurore Berger, ceux-là, étrangement, tu vois, vraiment, eux, la colonne vertébrale, ils l'ont rangé au vestiaire, ils ont perdu la clé, quoi. Et,
bref. Ah là là. On vit une époque compliquée, mais cet épisode sera un peu une capsule temporelle. On se souviendra que le 213, c'était à ce moment-là.
Voilà, c'est ça, c'était l'épisode maudit ou pas, on sait pas.
Alors, non, nous, on va continuer tant qu'on peut, hein.
Oui, c'est ça, c'était, qu'ils viennent nous chercher.
Surtout du cinéma, il y en aura encore. C'est juste qu'on sera obligé de regarder que du Christian Clavier pendant
des remakes de Vaincre ou Mourir. Voilà, ce sera le seul programme qu'il y aura.
Et tu sais quoi, t'as de la chance qu'on soit dans les années 50 parce que mon gars, la Pattaya, t'y avais droit, là.
Oui. J'ai échappé belle.
Mais bon, écoute, c'est à charge de revanche. C'est peut-être que lors du prochain épisode, hein, ceci dit.
On verra bien. Non, moi, j'ai une pensée émue quand même pour tous ces profs d'histoire dont le programme va changer pendant l'été. Voilà.
Ouais, écoute.
Et tout le chapitre 39-45 qui va sauter, tu sais. Bah, il serait passé.
Écoute, la meilleure vanne, écoute, elle est signée toi. C'est le jour de la dissolution. Tu te dis, ah bah, c'est ça de sauter les cours d'histoire pour aller se taper sa prof.
Voilà, non, mais c'est exactement quoi. C'est, à un moment donné, c'est pas possible. Quoi.
Ça se voit au bout d'un moment. T'as pas eu le mémo.
C'est ça, à un moment donné, ça se voit que t'as sauté certains cours. Quoi. Ouais.
Allez, bon, est-ce qu'on parle de cinéma? Et rappelons-le, dans ce politique, dans ce podcast.
très bon. Dans ce politique, pas de podcast. Ok, jamais de podcast dans ma politique.
C'est bon, on a le titre, on peut remballer.
C'est clair. On n'a même pas besoin de faire un reste d'émission.
Pas de podcast
bon,
dans cette politique. Allez, rappelons. Est-ce que tu devrais rappeler au point où on en est? Parce que quelqu'un qui nous a écouté jusque-là, c'est soit quelqu'un qui est peu ou prou d'accord avec nous.
Oui. Oui. Ou alors il est reparti.
Oui, non mais... tu sais que... Je l'ai dit, mais... Dans les followers YouTube de Soumis à Seine, Puyo a signé une certaine pétition et on a perdu 17 followers sur 20 000.
Tu parlais justement de la meilleure vanne. À ce sujet-là, la meilleure chose que j'ai lue à ce sujet, c'est de Boulet, donc le dessinateur de BD, qui disait « Si demain tu m'annonces que j'ai perdu 100 000 followers à cause de mon engagement contre le Rassemblement National, c'est comme si tu disais que j'avais perdu 200 grammes en allant au shot pour chier. »
C'est une bonne analogie.
Et voilà, et je trouve que ça résume parfaitement mon état d'esprit aussi.
Et en plus, moi, tu sais quoi, je suis pas... C'est-à-dire que c'est pas que j'ai... J'ai la désillusion ou quoi que ce soit, ou je suis moins engagé que d'autres, mais contrairement à beaucoup de gens, je signe pas de pétition, j'essaye pas d'imposer mon opinion et je pense que les gens ont largement de quoi les armes de réflexion pour se faire leur propre opinion eux-mêmes. Si je suis
oui, CNews par exemple ou Europe 1.
Non, mais si je suis déçu. écoute, si on est déçu, on est déçu, mais voilà. Oh là là, tu sais quoi, je suis passé à côté de collègues de CNews, donc, puisque je suis toujours journaliste, et je suis passé à côté de tes collègues, et je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être de bosser là-dedans, quoi? Qu'est-ce que c'est que de bosser dans,
ah ouais, non, mais c'est
de bosser chaud, dans un organe d'extrême droite, c'est compliqué, quoi.
Et c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, il y a parfois un monde entre la direction, les ouais. têtes d'affiche et les journalistes. Hein.
Oui. Nous, on connaît des gens au Figaro et c'est plutôt des gens qu'on qualifie voilà. de gauche même, tu vois.
Voilà, ouais. je pense effectivement à ces gens qu'on connaît au Figaro.
Ou à d'autres canards aussi, dont je connais, qui sont ancrés à droite, mais eux, ils sont plutôt ou au moins centre, ou voilà, quelque chose comme ça.
Et quand tu vois voilà la tribune signée par c'est le directeur de la rédaction, je sais pas quoi, du Figaro, je sais plus quel poste, là ce soir où il disait voilà littéralement plutôt Hitler que le Front Populaire. Ok, quand même, c'est ok, bon bah
à choix de mots, vraiment ils sont pas très malins non plus.
non voilà, mais bon c'est pour prendre une expression qu'ils aiment bien, ça remet l'église au centre du village, voilà, c'est
ouais, exactement. Ah bah ça l'église, ils savent ce que c'est, hein. Allez, c'est Stéphane, c'est ça, ouais.
Oui.
Est-ce qu'on commencerait pas cet épisode?
Oui, mais bien sûr. Bah, on vient juste de se connecter là. C'est ouais. à peu près une demi-heure.
Ce coup-ci, on va pas rappeler les règles. Vous nous envoyez des listes supercinébattle@gmail.com. Vous envoyez 3 films par liste et vous nous donnez une thématique. Juste pour vous rappeler que dans l'épisode précédent, on a classé 10e Godzilla et 29e Gladiator. Voilà, on a fait que deux films. Préparez-vous, je pense que c'est un épisode à deux films encore. ça veut dire qu'ils sont pas forcément courts. Mais je pense que ils vont trahir le fait que nous sommes que tu as l'air un petit peu en colère quand même.
Non, moi non. Non. Alors là, pas du tout. Moi, je suis dans une sérénité absolument folle.
Alors, c'était un peu difficile en plus de trouver des listes qui parlent de ça, parce qu'en fait, j'en ai reçu beaucoup qui parlent de ces films. Donc, alors, écoute, c'est une liste qui nous est envoyée par Thomas Quesnay.
Merci, Thomas Quesnay.
Je donne son nom de famille parce qu'il est signé de son nom. Alors, Thomas Quesnay nous envoie une liste qui s'appelle « Ces gars badass qui refusent de se plier devant l'autorité ».
Ah.
Le premier film, on en a parlé, c'est « Les sept samouraïs de Kurosawa ».
Bah oui, voilà, voilà.
Bon, donc, c'est quand même assez...
une place extrême dans la liste, rappelons-le.
Une place extrême. Voilà. Le deuxième film de la liste, et je pense que c'est des films qui sont... Je pense que dans ma philosophie de... Mais tous ces films sont complètement en accord avec ma philosophie de vie, et tu vas comprendre pourquoi. Le deuxième film de cette liste, c'est Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick.
Bah oui. forcément. Les Sentiers de la Gloire, Stanley Kubrick, film de guerre en noir et blanc, voilà, avec Kirk Douglas, qui raconte, durant la Première Guerre mondiale, le pourquoi du comment de la révolte, en tout cas de la désobéissance de certains soldats français, et de comment il a été jugé bon de faire un exemple de ces soldats en les fusillant purement et simplement.
Voilà. On peut dire que c'est un film emblématique et important de l'histoire du cinéma.
Bah, d'autant plus en France, que c'est un film qui a créé un scandale monumental et qui a été interdit de diffusion pendant très longues années. Moi, c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler par ma mère, notamment. Voilà, ma mère qui, je crois que j'ai déjà dit, mais qui était une fan de Stanley Kubrick, à tel point qu'à un moment donné, elle m'a avoué avoir hésité à m'appeler Stanley. Donc, je me serais présenté devant vous avec ce nom, Stanley Boulet.
T'aurais les mêmes initiales, ceci dit.
J'aurais les mêmes initiales, ça aurait pas changé grand chose. Mais elle me parlait beaucoup de ce film-là, parce que justement, voilà, c'est un film que, un film interdit avec, voilà, un goût du coup un peu sulfureux sur ce sujet-là, et que du coup, quand il est enfin sorti en France dans les années 70, il y avait une espèce d'engouement justement pour découvrir enfin ce chef-d'œuvre qu'on nous cachait, quoi.
Parce que c'est un film qui est sorti dans les années 50. Alors tu l'as dit fort justement que c'est en noir et blanc, et ça alors que on avait largement la capacité de faire de très belles couleurs et tu vois, enfin du cinémascope de fou furieux et tout ça. Le choix du noir et blanc est aussi déjà un choix de narration pour Stanley Kubrick. Et donc, je disais que c'est un film de 57 et qu'il est arrivé assez tardivement, hein, dans les années 70, hein, en France. C'est aussi parce que la France était plongée dans ce qui s'appelle la guerre d'Algérie. Et montrer ce genre de choses pendant la guerre d'Algérie, c'était improbable.
Ah bah oui, c'est... Oui, la France n'est pas la dernière à avoir des choses un peu compliquées dans son histoire. Voilà, et effectivement, oui, c'était comme cette idée que c'était intolérable de montrer l'armée française et à travers elle, finalement, l'État français sous son jour le moins glorieux, puisqu'on raconte, encore une fois, un récit d'une manœuvre absurde dans une guerre qui n'a pas beaucoup de sens à ce moment-là pour les personnes impliquées. C'est-à-dire que on demande aux soldats d'aller mourir par vague sur un endroit complètement imprenable, sans changer de stratégie. Parce que, évidemment, au bout de la cinquième fois où ça n'a pas marché, évidemment, la sixième, c'est là où ça va marcher, c'est bien connu. De cette espèce de déconnexion complète entre le besoin de l'état-major de prouver que c'est quand même les plus forts, et ce que vivent les soldats qui ont bien conscience qu'ils meurent inutilement. Ça se traduit par une répression qui est, on va tuer nos propres citoyens, en fait, nos propres soldats, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on fait, on ne badine pas avec la couardise, quoi.
Alors, je sais plus exactement dans quelle année se passe le film. Je crois que ça se passe au milieu de la guerre.
1916. Hein, c'est vraiment au moment où c'est bien la merde, quoi.
Voilà. Alors, à l'époque, chef d'état-major, c'est Joffre. Alors, il faut que vous sachiez, j'offre, c'est... à chaque fois que vous voyez genre le général Joffre, les rues Joffre, vous pouvez uriner sur la pancarte parce que c'est un mec qui a envoyé des millions de gens à l'abattoir. Mais vraiment, il a envoyé des millions de gens parce que ils avaient exactement ça ce que tu décris, cette stratégie, c'est qu'il les envoyait les uns contre les autres. Allez, 1000 personnes, allez, on y va, 1000 personnes, allez-y, ils vont, ils reviennent et se faisaient zigouiller. Et 2000 personnes, allez, on envoie 2000 personnes. Et c'était comme ça que ça se passait, quoi. Et j'imagine le mec qui a été archi... Bon, il n'est pas resté jusqu'au bout, après. Mais il est... Je veux dire, stratégiquement, c'était une ignominie. Et les états-majors étaient complètement complices de ce truc, puisque eux se faisaient médailler. Eux, d'abord, ils étaient... c'est jamais sur le front, hein. C'est pas les guerres napoléoniennes où Napoléon, soi-disant, il allait au premier rang des guerres et tout ça. C'était plutôt genre les généraux dans leur tente au loin et qui décidaient en bougeant des pions sur une carte, quoi.
Ouais, complètement.
Et alors, Kubrick s'est toujours un peu pas défendu, mais il a défendu son film en disant en fait c'est l'histoire de la guerre, mais ça aurait pu être je raconte quelque chose qui désigne n'importe quelle guerre. Oui et non, parce qu'en fait ce qu'il décrit c'est vraiment quelque chose qui s'est produit en France à ce moment-là, quelque chose qui a marqué, c'est basé sur des faits réels en fait, c'est de plusieurs.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs c'est plusieurs histoires qui s'imbriquent. C'est l'adaptation d'un roman de Humphrey Cobb. C'est une adaptation, c'est certes romancé, mais c'est basé sur des faits réels. Et les choses qu'on va voir dans le film et les meurtres de leurs propres soldats, c'est ça aussi le truc. Mmh. Parce qu'on parle de cour martiale, mais à l'époque, la cour martiale, ils n'ont pas le temps, ils flinguent tout de suite, quoi. On pouvait juste te flinguer parce que tu avais peur. Et c'est ce qui arrive un peu dans ce film.
Et c'est ce qui arrive, ouais, effectivement. Ouais. Le film et finalement le scandale qui est autour, et enfin c'est tellement révélateur que voilà, on est dans le dans ce que certains appellent le roman national qu'il ne faut pas perturber. Tu parlais de la guerre d'Algérie, mais au-delà de ça, il y a quand même cette idée que dans la première guerre mondiale, nous étions dans le camp du bien. Et que à un moment donné, n'importe quel discours qui vient ternir ou en tout cas nuancer ce constat-là va être très problématique à prononcer. Et de la même façon que à un moment donné, les tensions et parfois les choses peu avouables qui s'est passé dans la résistance française, c'est aussi un sujet qui va rester tabou pendant de nombreuses années. Voilà, on pense à l'armée des ombres notamment
Klein.
Voilà, et à Monsieur Klein, tout ce genre de choses, voilà, c'était des choses taboues, voilà, parce qu'on contrevenait au roman national, et le roman national, enfin, plus on insiste dessus, et plus effectivement, plus tu as fort à parier que c'est pas vraiment la vérité de ce qu'on te raconte. Et cet exemple-là que prend Kubrick, et effectivement, t'as raison de dire que c'est romancé dans le sens où effectivement c'est pas forcément les bons noms des personnages ou les actions
exactes, les militaires exacts, voilà.
C'est pas important, c'est-à-dire que ce sont des choses qui se sont passées à différents endroits au cours de cette guerre, et c'était une façon de discipliner ces soldats. Et voilà, quand à un moment donné, la seule façon que t'as de discipliner tes soldats, c'est finalement de les menacer de les tuer toi-même. Bon, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est à revoir dans ton management. Je pense qu'en termes de management toxique, on est quand même dans le top du panier. Et il faut voir qu'à travers ces parodies finalement de justice, parce que effectivement tu l'as dit, les gradés bien planqués de au loin qui distribuent finalement les droits de vieux morts sur leurs propres soldats comme s'ils étaient des esclaves quelque part, hein, on est vraiment sous cette forme là. Il y a aussi une histoire de lutte des classes, et c'est ce qu'illustre d'ailleurs Kubrick dans ce film là puisque le point de vue des Sentiers de la Gloire, c'est un gradé, mais c'est pas un général, c'est-à-dire qu'il prend un gradé, donc le personnage
officier,
il est colonel,
voilà.
Voilà, il prend le personnage de Kurt Douglas qui est un colonel, donc l'avantage de ce personnage-là, c'est que c'est un personnage qui est dans les tranchées, qui est au front avec les hommes, mais qui, de par son grade et sa position dans la chaîne de commandement, en fait, fait qu'il est également au contact de la hiérarchie et des généraux. Voilà, et du coup, en fait, ce personnage-là fait vraiment le lien entre ces deux univers, et c'est un personnage qui est un personnage lettré, c'est un personnage éduqué, intelligent, et en fait, Kubrick va se servir de ce personnage-là pour justement illustrer le fait que derrière ça, au-delà même du côté complètement absurde de tuer des hommes qui sont là pour défendre a priori la même cause que toi, il y a cette idée de l'abus de pouvoir absolu, dans le sens où chez les gradés, bah forcément c'est une certaine caste sociale, et dans les soldats qui meurent dans la boue et finalement qu'on va fusiller de façon complètement gratuite et aléatoire, c'est que des gens qui ne pourront jamais être généraux de par leur statut social. Et le personnage de Kirk Douglas va faire ce lien entre eux et va être cette personne-là éduquée qui va à un moment donné essayer d'appeler à la raison non pas les soldats, parce qu'en fait il va, plus il avance et plus il se rend compte que leur cause est légitime, mais appeler à la raison ces généraux, et en fait va se heurter petit à petit à un mur qu'il va essayer d'abattre par les arguments, par la raison, par la compassion, et en fait plus il va lutter contre cet état de chaise, cet état de fait, contre l'ordre des choses, et plus en fait la réponse qu'il va avoir, ça va être ben c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait, et là effectivement tous les masques sur l'héroïsme, sur le sacrifice, sur le patriotisme, ben s'écroulent. On est simplement dans un moment donné une espèce de lutte de pouvoir absurde, presque du caprice quelque part, de gens qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur d'autres et qui vont l'exercer parce que finalement c'est leur prérogative.
Surtout, il y a un truc qui est important, c'est que ça a été le commencement majeur d'une espèce de vision critique de la Première Guerre mondiale. À l'époque, il y avait encore beaucoup de survivants de la Première Guerre mondiale. S'ils étaient encore vivants, il y en avait qui avaient survécu, et les poilus, notamment les poilus, ils faisaient partie de l'univers de la France. Enfin, tu vois, ils avaient une espèce d'importance, le ministère des anciens combattants, tu vois, c'était le ministère le plus important à l'époque, puisque non seulement il y avait les anciens de la Première Guerre, mais aussi il y avait les anciens de la Seconde Guerre. Et il y avait la vague contestataire, ça a lancé presque une vague contestataire de « Ah non, en fait, tous ces films de guerre, en fait, ils nous décrivaient de l'héroïsme. » Et d'ailleurs, on l'avait déjà dit dans différents films de guerre, mais si tu sors d'un film de guerre et que tu dis « Wouah, mortel, je m'engage !»
C'est que c'était une vidéo Tebow & Shape. C'est que c'était pas un film de guerre. Voilà.
J'allais dire que c'est un film de propagande.
C'est comme ça que tu reconnais, en fait, un film de guerre d'une vidéo Tebow & Shape, en fait. Voilà, c'est un décurseur. Voilà.
Ah, tu sais que
je suis mal placé. Respect pour notre futur ministre des Sports. Voilà, je veux pas dire du mal de lui. Voilà, c'est vraiment pas
mon
genre.
Il a dit, je suis plutôt à droite et dans l'isoloir, je pense à moi.
Non. Alors, je tombe des nues. Alors là, je me fracasse sur le sol. Tellement la surprise m'a envahi, m'a propulsé dans les airs et m'a fait retomber avec toute la puissance de la gravité terrestre. Je n'en reviens pas.
Je pense être très superflu.
Oui,
je suis désolé, Tebow & Shape. S'il était un auditeur, on l'a perdu à tout jamais. Écoute, ça fera 200 grammes en moins.
C'est ça, exactement.
Non, mais par exemple, il y a la chanson de Georges Brassens, tu connais, Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Il y avait tout un truc c'était un truc très important dans l'histoire de la, dans le truc de la France. Il y avait deux grands mensonges collectifs, c'était genre la gloire de la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs, à tel point qu'ils en ont fait, de Pétain une espèce de macro-héros de la Première Guerre mondiale et héros providentiel, alors que il est juste arrivé, il a juste bougé les pions un peu différemment parce qu'il a dit, ah bah on va les prendre à revers. Pas con le mec, tu vois, mais normalement, tu sais, la somme de ce que tu fais de mal, normalement, elle nique un peu ce que tu as fait de bien. Il a juste été un peu moins con que les généraux allemands à ce moment-là, quoi. C'est vraiment ça, hein.
C'est-à-dire qu'effectivement, globalement, effectivement, la figure de Maréchal Pétain est hyper importante parce que elle résume bien l'une des problématiques qu'on peut observer sur ce genre de sujet, c'est qu'à un moment donné, quand tu t'en remets à un homme providentiel uniquement, enfin, et que tu et que c'est ta seule perspective, c'est qu'en fait t'es déjà mal barré. Voilà, cette espèce de justement de course à l'homme providentiel, à celui qui va résoudre la situation, voilà, savoir qui va être premier ministre machin, mais en fait c'est pas là l'enjeu. Voilà, et effectivement la figure du maréchal Pétain, très encombrante à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, hein, pour des raisons un peu évidentes, et qui va aujourd'hui, avec les mémoires qui disparaissent, on y va des réhabilitations parfois à demi-mot, mais... en disant oui, en fait, bon, en 40, d'accord, mais en 1917, franchement. Mais...
On a un certain président de la République, mais j'allais dire fucking.
Oui.
Mais je me retiens un peu d'apolitisme
mais
dans
oui.
ce podcast.
Mais c'est.
Ça ferait un peu de bien. Mais qui dit, mais c'était d'accord. Mais non.
Mais non.
Il est juste un peu moins con que les autres en moment en présent. Mais il vaut pas beaucoup mieux. Il vaut pas mieux que les autres. Et la somme de ce qu'il a fait annule complètement le fait.
Oui.
Et tu parlais.
Franchement, Daniel. Émile Louis. Bon chauffeur de car. Bon.
Écoute,
chauffeur de car, Émile Louis.
Il y a tout un truc.
On l'oublie, on le dit pas assez.
T'es con. Mais
Dupont-Ligonnès, il fait des terrasses, mais comme personne. Le truc, tu mets un niveau à bulle, ça bouge pas, quoi.
J'ai vu le film sur le comédie sur Dupont-Ligonnès. Ouais.
C'était une perche, voilà. C'était une perche.
Ouais, merci. Hein. C'était pas le moment le plus glorieux de mon année. Hein. Mais oui, et en plus, tu disais ce truc de good guys. C'est ça aussi, c'est que pendant des années, les vainqueurs écrivent l'histoire. On te dit, ouais,
bah oui.
We were the good guys. Ça me rappelle cette phrase prononcée dans Wonder Woman, pour te prendre un film qui se passe bizarrement pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'ils auraient pu
c'est
la mettre
vrai.
Dans la Seconde, où là, clairement, tu vois, il y a un méchant qui est quand même très, très identifié. Là, on te la met dans la Première Guerre mondiale et il dit « They're the bad guys ». Mais c'est pas si évident, en fait. Il n'y a rien qui...
Non, en 14, non, c'est pas si évident, ouais.
Et là, le but de tous de ces films... qui vont arriver ensuite par la suite grâce au Sentier de la Gloire, c'est que de dire que non, en fait les méchants sont aussi de ton côté, c'est tous ceux qui traduisent en cour martiale, c'est tous ceux qui ne respectent pas la vie humaine, c'est voilà, il y a toute une forme de narration qu'on nous avait vendue sur la Première Guerre mondiale, le courage des soldats et tout ça, ils les ont envoyés vraiment. Tu sais, quand je me balade dans Paris et que je vois les immeubles et que tu remarques bizarrement les constructions haussmanniennes et tout ça, ça s'arrête dans les années 12-13, bizarrement. Pourquoi ensuite les immeubles sont beaucoup moins raffinés? Pourquoi ils ont moins de gravures? Pourquoi ils ont moins de bas-reliefs? Pourquoi ils ont moins de moulures? C'est que toute la génération des gens qui fabriquaient ces immeubles, ils les ont envoyés au front. Ils les ont envoyés à la mort. Et des millions de jeunes de 16 piges, 17 piges ont été envoyés, ont été sacrifiés. Alain Fournier, qui est quand même un des auteurs, il a écrit qu'un seul bouquin, et c'est un fucking classique de la littérature française, le grand Mould. Il a écrit qu'un seul bouquin, il est mort. Tous ces mecs-là ont été sacrifiés, et c'est ça que raconte ce film. Et alors, on n'a même pas parlé de la qualité intrinsèque du film, mais c'est quand même un super film.
Non, mais c'est un super film. Voilà, c'est au-delà effectivement de tous les sujets dont on a parlé. Voilà, de la façon qu'il a de décortiquer
On l'a contextualisé par rapport à son époque, par rapport. Il sort pendant la guerre, enfin au moment où la France est encore empêtrée dans son histoire coloniale, pour dire ça pudiquement, parce que enfin je veux dire, ce film sort alors qu'il y a sans doute des mecs qui sont en train de commettre des atrocités en Algérie en même moment, tu vois.
Oui, voilà. Des types qui vont après devenir des leaders de partis politiques,
oui.
Voilà, des choses comme ça, avec des yeux de verre, des trucs comme ça, ce genre de personnages.
C'est quelque chose que l'État français, tout ça, ne veut pas entendre. Ils ne veulent pas entendre ce genre de trucs. Ouais.
Non, mais bien sûr qu'il veut pas entendre, parce que voilà, encore une fois, ça contrarie
le roman
national.
Ouais, ouais.
Voilà, et je suis sûr que les Sentiers de la Gloire, enfin ou plutôt, je suis sûr qu'on aurait catapulté Cyril Hanouna en 1957. T'aurais eu des émissions entières pour faire interdire le film et légitimer le fait qu'effectivement ce torchon ne devrait pas voir les salles.
Ou
c'est
des
une
débats,
certitude.
Voilà, ou des débats avec des experts. Tout d'un coup, tout le monde devient expert en Première Guerre mondiale.
Oui. Et les mecs, ils disent, oui, bon, ils ont peut-être un petit peu cherché d'être fusillés, hein, à un moment donné.
À un moment, il faut voilà, choisir, hein, il faut choisir quand
même. Oh, bon, bah, c'est ça. Non mais voilà et donc mais au-delà de voilà au-delà de démontrer tout ça va tout puis pareil l'arrivisme des généraux encore une fois le côté vraiment lutte des classes dans le sens où voilà c'est finalement les dominants qui trouvent un nouveau moyen de s'en prendre aux dominés l'utilisation justement on parle depuis tout à l'heure de roman national de réécrire l'histoire ou en tout cas d'en garder ce qui nous arrange voilà le nationalisme comme outil à la fois de propagande et à la fois quand ça ne marche plus outil pour légitimer tout et n'importe quoi voilà enfin littéralement le nationalisme c'est une abolition pure et simple de la pensée critique et Stanley Kubrick nous parle de ça dans son film et là-dessus faut être extrêmement clair au-delà de ça c'est qu'effectivement si le film cartonne c'est déjà par tous ces thèmes qu'il aborde avec de façon très frontale et très courageuse, mais en plus c'est parce que l'objet cinématographique que pond Kubrick est absolument hallucinant en termes de photos, de mise en scène, d'interprétation quoi.
Ouais, il est dingo. On parle d'une époque pré-CG. Il y a des milliers de figurants. Il y a des scènes assez épiques, il y a des moments où ça explose un peu de partout et tu te dis il y a forcément eu des blessés hein, sur le tournage hein, c'est sûr et certain. C'est un vrai genre si tu aimes les films de guerre, ça reste quand même un film de guerre qui se tient complètement quoi.
Ah oui, bien sûr. Et c'est un vrai grand film de guerre parce que effectivement en plus enfin ce qu'il y a enfin c'est là où tu vois vraiment le talent de Kubrick, c'est que il est à l'aise, parce qu'il va te faire effectivement une séquence, la fameuse séquence des tranchées avec cette caméra hyper fluide qui va accompagner le personnage et qui va nous plonger en fait dans les tranchées puis après dans le No Man's Land. Les deux caractéristiques, on va dire topographiques de cette guerre, en tout cas celle qu'on retient le plus souvent. Je sais pas s'il y en a qui d'entre vous qui sont déjà allés au fort du Duomo ou à Verdun. Pour le coup, moi j'étais quand j'étais en voyage scolaire et c'était une expérience qui m'avait vraiment marqué. Alors aujourd'hui, je sais pas comment c'est, mais à l'époque, tu voyais encore bien, tu t'arrivais facilement à te repenter ce que pouvait être un No Man's Land en fait, puisque t'avais des pans entiers de collines qui étaient encore complètement éventrées. La végétation avait repoussé quand même. Je suis pas si vieux que ça, mais tu t'arrivais quand même vraiment à visualiser, outre l'ossuaire de Duomo où t'avais les piles de crânes non identifiés, voilà, mais t'avais encore quand même vraiment ces cicatrices, ces stigmates dans la terre, et voilà, et Kubrick s'approprie cette caractéristique topographique, visuelle de ce conflit, et l'utilise avec un grand brio, et en parallèle de ça, il va te faire des scènes de dialogue, à chaque fois, découpé vraiment au cordeau, le montage du film est vraiment admirable là-dessus. Et justement, cette façon dont la mise en scène va évoluer, en fait, avec le personnage de Kirk Douglas aussi. C'est-à-dire que, au début, c'est un haut gradé, donc, encore une fois, un colonel, un bon soldat, un patriote, dans le sens où il croit en son pays, il croit en sa mission et en la défense de son pays. Donc du coup, il est très protocolaire au début. Puis petit à petit, il va vivre l'enfer aux côtés des soldats. Il va échapper à la mort de peu. Il va voir ce que c'est que l'horreur de la guerre et il va comprendre en fait l'absurdité de ce qu'on lui demande à force de retourner sans arrêt et de voir en fait ces hommes finalement qui n'ont que comme seule perspective, c'est de mourir pour une chure de mouche sur les cartes de l'état-major, pour reprendre le dialogue du bon abruti le truand, quoi. Et au fur et à mesure de cette prise de conscience et de ce sentiment, finalement, parce que c'est ça aussi, le personnage de Kirk Douglas, a priori, c'est pas un sale gauchiste, hein, comme diraient certains, mais c'est quelqu'un qui, face confronté à la réalité des choses, à un moment donné, va se rendre compte que la justice qu'on lui vend et dont on se sert pour finalement le dompter lui aussi, c'est de l'hypocrisie en fait, et que derrière on est au contraire dans une situation d'injustice pure. Et petit à petit, justement, les scènes de dialogue dans les salons de la République, comme diraient certains, les scènes de dialogue dans les salons de la République vont changer en termes de mise en scène, en termes de montage et même en termes d'angle de prise de vue. Kubrick va petit à petit introduire une espèce de tension jusqu'à jusqu'à un espèce de finale complètement étouffant, en fait, où voilà, où tu sens vraiment tout le point culminant de cette culpabilité qui va ronger ce personnage et de l'inéductable destin qui va s'abattre sur ces hommes, quoi. Et tout ça se traduit visuellement, voilà, sur la façon dont il a fait les choses, sur la façon dont petit à petit, effectivement, deux types qui discutent dans une pièce, que selon la façon dont Kubrick va les filmer, et ben on va pas avoir le même poids sur la scène et on va se rendre compte que au-delà des dialogues et des discours, visuellement, c'est un film qui va te prendre à la gorge jusqu'à la fin, quoi.
C'est un grand cœur de glace. Je pense que c'est
oui, tout à fait. Ouais.
Je pense que c'est un de ses grands rôles, vraiment, parce qu'il est complètement habité par le propos, et je trouve tu vois tout par les yeux de Kirk Douglas, en fait. Kirk Douglas, c'est ton personnage, c'est ton personnage référent, et il est là pour mettre en exergue le cynisme de l'état-major, en fait. Et je trouve qu'il le joue de manière assez brillante, quoi.
Ouais, non, mais il est parfait à ce moment-là dans ce rôle-là. Non, c'est l'homme de la situation. Non, vraiment, oui, très très grand rôle, très grand Kirk Douglas pour un grand film. Et c'est intéressant parce que c'est marrant parce que justement, tu parlais du voilà de ce qu'a provoqué ce film-là pour le genre, en fait, quelque part. C'est marrant parce que on est donc là au milieu des années 50, on est à un moment donné où justement le cinéma de guerre américain, qui ne s'est jamais arrêté de produire des films, commence un petit peu à changer sous l'impulsion de gens comme Robert Aldrich, par exemple, où tu vas commencer à avoir de plus en plus, et c'est ce qui va mener à des films comme Les 12 salopards un peu plus tard, ou Quand les aigles attaquent. Voilà, très grand film de massacre de nazis, dois-je le rappeler, ce qui fait toujours plaisir. Mais on arrive
mon préféré, tu sais que j'ai la fiche,
moi aussi. Et ben écoute, le soir de la dissolution, c'est le film que j'ai regardé. Je me suis dit, j'ai besoin d'un film qui me change un peu les esprits, et j'ai regardé Quand les aigles attaquent.
Je rappelle que c'est un des films qui a la meilleure catchline de tous les temps sur l'affiche. C'est pour ça,
ouais,
c'est pour ça que j'aime ce film. Mais on vous renvoie à l'épisode où on parlait des Quand les aigles attaquent.
Tout à fait. Mais donc voilà, au milieu des années 50, le cinéma de guerre américain va commencer à introduire, en fait, justement cette nuance, dans le sens où le cinéma de guerre a rempli sa fonction de cinéma de propagande face aux nazis, et petit à petit on va commencer à avoir des films, voilà, encore une fois, comme dans le cinéma de Robert Aldrich, où on va un peu se poser la question, mais est-ce que au-delà du fait que péter la gueule à des nazis, c'est parfaitement justifié, on a bien fait, au-delà de ça, est-ce qu'à un moment donné, la guerre en elle-même, ça ne poserait pas une sorte de problème moraux de façon générale et aux gens qui participent? Donc c'est quelque chose qui commence à émerger dans le cinéma américain à ce moment-là. Et là, Kubrick, en fait, il va s'inscrire là-dedans, mais il va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que lui, il va carrément péter le plafond de verre, dans le sens où ça va pas juste être des films de guerre avec des soldats qui sont pas forcément aimables. Par exemple, chez Aldrich, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des soldats qui font leur devoir, mais qui en même temps voilà, trouvent ça un peu inutile et se battent entre eux, tu vois, il y a un côté, c'est pas vraiment des héros. Et Kubrick, il va aller au-delà de ça, il va carrément prendre un bulldozer et dire, mais en fait, à un moment donné, les types qui nous envoient mourir parfois pour rien, c'est pas forcément nos alliés, en fait, quelque part. Et je pense que c'est aussi ça qui va, au-delà du sujet senti par rapport à la France, qui va donner à ce film ce retentissement et cette importance, c'est qu'il va vraiment tout péter au bulldozer et s'affirmer comme un film qui met les deux pieds dans le plat et au pacifisme revendiqué jusque dans la dernière minute, en fait, du film. Voilà, qui l'idée vraiment là, c'est de faire un film hautement et de façon revendiquée pacifiste, quoi.
Bah, c'est exactement ça, et c'est dingue quand même que Kubrick y trouve les ressources nécessaires à ce moment-là de sa vie pour faire ce film-là, quoi. C'est-à-dire, il est encore très jeune, il n'est pas encore le soutien des grands studios qu'il aura ensuite. C'est un coup de massue, il a quoi, 30 piges à ce moment-là?
Oui, non, mais effectivement, en plus, c'est vrai que c'est un truc auquel j'avais pas pensé avant que t'en parles, mais c'est vrai que Kubrick, au moment où il fait les Sentiers de la Gloire, on est au tout début de sa carrière, c'est-à-dire qu'il venait de faire le
L'ultime razzia, je crois.
Le baiser du tueur et l'ultime razzia, ouais. Coup sur coup, qui sont des bons films, attention, mais qui sont des films noirs et des films de genre comme ça. Et effectivement, arriver à faire ce film-là à ce moment-là de sa carrière avec une telle audace. Effectivement, c'est un bond extraordinaire. Et globalement, en fait, c'est vraiment le début de la légende Kubrick. Voilà, même si encore une fois, c'est ses premiers films, pareil, Fear and Desire, etc., sont des films intéressants ou voire carrément des bons films ou même des très bons films dans le cas de l'Ultime Razzia. La dimension qu'il prend à ce moment-là en tant que cinéaste et la façon dont il pose ses baloches sur la table pour aller affirmer finalement son humanisme contre une espèce de cynisme d'un ordre moral établi, ça le place vraiment sur la carte. Et à partir de là, il va dérouler parce qu'il va enchaîner Spartacus derrière. Et la légende Kubrick finalement s'écrit à travers ce film-là, quoi.
Et on voit déjà quand même l'utilisation de la musique. On voit quand même des moments, ces fameux travelling latéraux et les travelling avant, les travelling arrière. Enfin, vraiment, c'est quelque chose. Il a une espèce de patte cinéma qui est en train de se créer à ce moment-là, quoi.
Oui, et puis il faut voir, voilà, là on est en 57, c'est-à-dire que 57, on est 15 ans, 18 ans avant l'invention du Steadicam, c'est-à-dire que les prises de vue que Kubrick va faire, les prises de vue mobiles que va faire Kubrick dans ce film-là, pour filmer la guerre, pour filmer la tranchée, pour filmer le No Man's Land, il y a comme un effet assez bluffant, en fait. Voilà, ils sont pas nombreux. En fait, il est le seul à ce moment-là à filmer ça comme ça. J'en ai parlé avec mon fils dernièrement parce que on a regardé Il faut sauver le soldat Ryan ensemble. Et tu vois, voilà, faut voir que en termes purement de technique de cinéma, Les Sentiers de la Gloire, c'est l'équivalent de d'Il faut sauver le soldat Ryan de son époque, en fait. C'est-à-dire que après ce film-là, ce sera plus possible de filmer la guerre comme on le faisait avant, en fait. Sinon, tu vas paraître ringard. Et voilà, de la même façon qu'une fois que le soldat Ryan était passé, globalement, c'était plus possible de enfin, voilà, il y avait un nouveau maître étalon. Et il se pose là, Kubrick, avec ce film-là.
Steph, je te rattrape par le col. Je veux juste te dire que quand les aigles attaquent, c'était dans l'épisode 59. Il est 33e au-dessous le docteur Jivaco, mais au-dessus de Goyokin. C'est quand même une sacrée décennie, quand même, les années 60.
Sacrée bonne place, voilà. Ouais.
Et on vous invite à vous y reporter. Si vous voulez, l'autre genre de film de guerre, c'est-à-dire le film de guerre un peu jouissif, le proto Sissou.
Oui, c'est pas très intellectuel hein, quand les aigles attaquent. Ouais.
Non. C'est à peu près la finesse d'un épisode de Wonder Woman des années 70. Mais tu sais quoi, parfois, t'as besoin de ça aussi.
Voilà, parfois on a besoin de ça.
Et je pense qu'on devrait classer celui-là parce que sinon on va jamais avoir le temps de faire le dernier film de la
liste. Oui, tout à fait. Mais enfin, les sorties à voir absolument. Enfin,
Est-ce que.
On est dans du classique de chez classique, quoi.
C'est mieux que l'Ultime Razzia.
Oui.
Et enfin,
pour moi, c'est sans commune mesure.
L'Ultime Razzia est 7e déjà.
Ouais, ouais. Tu vois, je vois film de guerre dans le top 5, c'est mieux que le pont de la rivière Kouai.
C'est mieux que le pont de la rivière Kouai.
Je trouve ça mieux que Quand la ville dort.
Ouais.
Voilà. Après...
Je pense que...
Après, voilà.
Je pense que...
Pour moi, c'est...
Ouais,
vas-y.
Moi, ça serait entre Vertigo et Quand la ville dort.
Ouais, je pense aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, les 7 samouraïs me semblent... Enfin, inatteignable.
Pas comme ça.
Et effectivement, je pense que Sueur froide, enfin voilà, c'est un film tellement fou, enfin voilà, tellement qu'on a à peine effleuré parce que
tellement en fait, en réalité, hashtag le cinéma, quoi.
Voilà, tellement hashtag le cinéma que faut le voir et s'y replonger. Encore une fois, hein, je l'avais dit quand on, dans l'épisode de Sens, mais Sueur froide, c'est vraiment un film à voir, à revoir à plusieurs époques de sa vie, en fait. Enfin, tu verras à chaque fois un film différent et à chaque fois un film qui va te plaire. Ouais, c'est ça qui est assez fou. Donc voilà, on est quand même sur ces deux monuments et je pense que Les Sentiers de la Gloire a sa place juste en dessous, mais vraiment, c'est pas démérité parce qu'on est quand même sur deux très gros morceaux qui ça va être compliqué à chercher. Et là, on est clairement sur un grand film, quoi.
Alors, on a quand même une grosse liste, hein, je te préviens. On a maintenant les derniers films de cette liste. Alors, Monsieur Werner Herzog.
Oui.
J'en déduis que tu es un peu vénère.
Je suis un petit peu vénère. Je suis plus vénère qu'Herzog en ce moment. Voilà. C'est comme ça.
Est-ce que tu es prêt à parler d'un film de Sidney Lumet qui s'appelle Les 12 hommes en colère ?
Oh là, 12 hommes en colère. Mais oui, évidemment. Évidemment.
Je pense qu'il fallait sortir le. C'est presque comme un season final. On pourrait s'arrêter là. Tu sais quoi, le prochain, on va faire des petits films. On va faire que des films de dos. Ce coup-ci, il fallait se lâcher un petit peu. 12 hommes en colère, donc de Sidney Lumet. Un film. Tu l'as vu, hein.
De la même année, 57.
Bonne année quand même.
Plutôt bonne année pour le cinéma. Par où commencer ?
C'est un film de procès. C'est avec Henri Fonda.
Avec Henri Fonda. Voilà. Ça c'est un bon début. Non mais Sidney Lumet, un des plus grands réalisateurs américains à mon sens, qui signe là son premier film. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. C'est que c'est le premier film en tant que metteur en scène de Sidney Lumet.
Il s'est un peu foiré. On est d'accord.
Ouais, il s'est un peu planté. Voilà, alors, un peu planté.
Et tu sais quoi ? Film d'une telle intensité qui ne dure qu'une heure et demie.
Oui, il dure qu'une heure et demie.
Il dure qu'une heure et demie.
Tellement bien exploité.
C'est incroyable en fait quand il pense.
Et quelque part, je me dis, si on devait faire un jour un super premier film battle, combien de premiers films pourront aller chercher 12 hommes en colère, à part évidemment Bad Boys de Michael Bay, mais combien, voilà. En plus, je sais même pas si c'est son premier Bad Boys, non, je sais pas, peut-être pas.
Je sais pas. J'ai vu Bad Boys 4, j'étais déçu, c'est pas Michael Bay.
oui, c'est pas Michael Bay. Non, mais voilà, quel grand film. Donc, c'est un film de procès, effectivement, qui démarre illico presto, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un jeune homme qu'on accuse d'un meurtre. Et le film démarre, il y a une courte séquence dans le tribunal où globalement on nous dit, ben, messieurs les jurés, voilà, à vous de jouer. Et on est tout de suite dans la salle des jurés et le film va se, ben, c'est un huis clos, voilà. Donc premier signe du style Lumet, le huis clos, voilà. D'Alfred Hitchcock que c'était le maître du suspense. Ben, Sidney Lumet, c'est le maître du huis clos, tout simplement. Et j'ai vérifié entre temps, Bad Boy, c'est bien le premier film de Michael Bay, et je m'en veux tellement, tellement de connaître aussi bien la filmographie de Michael Bay. bref. mais voilà, donc c'est un huis clos et ben, du coup ça va être l'enjeu, ça va être ben, quel sera le verdict de ce procès, en sachant que tout le premier génie de ce film là, parce qu'on voilà, on parle de Sidney Lumet, mais faut pas oublier aussi que Reginald Rose qui est le scénariste du film, c'est vraiment un match à deux là-dessus qui va nous donner la réussite du film. C'est que au-delà de cette courte séquence au début, on ne sait rien du procès, c'est-à-dire qu'on n'a pas assisté aux plaidoiries. On n'a pas assisté à l'exposition des preuves, on n'a pas assisté aux interrogatoires des avocats, voilà, tout ça, on n'a pas assisté à ça. On est plongé dedans, on a juste ces types, et en fait, ils vont devoir débattre. Donc, tu démarres le film sans a priori, c'est-à-dire que vraiment, tu n'as aucun élément pour te permettre de te faire ton avis au préalable, et c'est une idée qui est toute simple, hein, mais qui est absolument géniale, parce que du coup, le moteur narratif du film, c'est le personnage d'Henri Fonda, qui au début est le seul pas d'accord avec la culpabilité de l'accusé. Et même mieux, si je sais pas si tu te rappelles bien du film, c'est que au début, il
plaide coupable,
il refuse. Non, enfin, oui. Puis surtout au début, le personnage d'Henri Fonda refuse de le donner coupable, tout simplement parce que ils n'en ont pas parlé. En fait, oui. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se disent bon bah ça va être vite fait, c'est vite vu, enfin voilà, le procès est vite vu. Et lui il dit mais en fait je vous dis pas qu'il est forcément innocent, je dis juste qu'à un moment donné, ce qui est en jeu, c'est la vie d'un homme, parce que là pour le coup il y a la peine de mort qui est en ligne de mire. C'est la vie d'un homme. Le minimum qu'on pourrait faire, c'est peut-être se poser des questions et en discuter entre nous. Et ça c'est le point de départ du film. Et ce point de départ là. Il est hyper important de ne pas savoir ce qui se passe dans le procès, parce que justement, nous, pour nous faire notre avis, pour savoir ce qui va se passer, on va avoir que la force de conviction des personnages et le récit qu'ils font finalement du procès. Et évidemment, là, Henri Fonda, qui joue un architecte, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il exerce le même métier que mon père. Donc voilà, c'est un détail, mais moi ça m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'avais vu le film la première fois. Il va être là, il va dire, mais voilà, à un moment donné, il va en fait en réalité dire le véritable sens de la justice, c'est à minima d'accorder le bénéfice du doute et d'accorder notre sérieux à cette personne qui risque sa vie. Et petit à petit, en fait, il va rediscuter des preuves, on va redérouler le procès devant nous, analyser les preuves, et ce qui est en jeu, c'est pas la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, c'est vraiment la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que les pièces dont on dispose et les choses dont on dispose, est-ce que véritablement c'est suffisant pour nous convaincre à 100% que la personne est coupable et que du coup, au regard du système judiciaire américain à ce moment-là, qu'elle mérite de mourir, quoi. Parce que finalement, on parle de la vie de quelqu'un malgré tout.
Et en plus, on va décomposer au fur et à mesure le procès, on va revenir sur certains éléments, mais aussi on va rentrer dans la personnalité de ces jurés qui seront jamais nommés.
On ne saura
jamais leur nom durant le procès et en fait on va comprendre que parfois ils ont des motifs internes totalement subjectifs par rapport à leur vie. Tout d'un coup on parle de l'histoire, c'est un enfant qui a tué un gamin qui a tué son père, et donc du coup lui, sa propre relation à son père est conflictuelle, donc du coup, il va le vivre vraiment pleinement, et du coup, pour lui, il n'y a aucun doute pour lui, c'est qu'il est, il est coupable. Et
le personnage de Lee Jacob.
Et au fur et à mesure, le film va se détricoter, avec chacun va expliquer pourquoi il a le sens de chacun va expliquer pourquoi, ce que représente cette histoire à ses yeux, il y a un personnage qui est joué par Jack Warden, qui est celui qui m'intéresse, parce que lui, il est là juste pour le baseball, en fait. C'est-à-dire, lui, il a match, et il veut pas en entendre, en fait, il veut pas en entendre parler, tout ça, c'est...
Parce que sinon, il va être en retard au match
et tout, il a envie, et pour lui, il fallait que ça soit fait, genre... Cette personne n'a pas le droit à son temps, tu vois. Et il y en a un qui plaide, genre il y en a un qui plaide complètement coupable à chaque fois. Enfin bref, chacun a son propre jugement et a ses propres motifs pour est bon ou mauvais pour. Par exemple, il y en a un qui est immigré et qui du coup. Tu sais, à l'époque, devenir américain, il y avait quand même une espèce de symbolique. On parle pas de l'époque de Quix, bien sûr, mais mais à l'époque...
Fichu binational de Quix.
Mais tu vois, par exemple, quand ma famille, quand ils ont une partie de ma famille a émigré aux États-Unis, devenir américain, ça avait un sens, tu vois, genre en termes d'idées, de valeurs de démocratie, tu vois, ce genre de choses. Et ils savaient pas où ils mettaient les pieds, mais mais ça avait une valeur. Et enfin, je pense que c'est ça le truc le plus important de ce film, et aussi qui montre aussi c'est triste, hein, mais d'une certaine part, la limite du cinéma, la limite du théâtre, puisque c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, c'est que tu as beau faire le film le plus incroyable qui soit sur le sujet, c'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire que la peine de mort est toujours en cours. Et c'est un film qui te montre l'absurdité de la peine de mort. C'est-à-dire que ça se joue sur la vie de 12 personnes de manière complètement subjective, et il en faut un de suffisamment intelligent et pertinent pour qu'ensuite qu'il questionne les autres, pour que ensuite on se rende compte que en fait on a failli tuer quelqu'un, parce que évidemment le but de l'opération c'est d'innocenter la personne, mais tu le sais que ça va arriver, mais le suspense est ainsi fait que c'est assez incroyable, quoi. C'est des moments d'acting assez phénoménaux.
Moi, je pense que t'extrapoles un petit peu, parce qu'à mon avis, c'est juste un bon petit divertissement dont le véritable sujet, c'est le manque de climatisation.
Alors, c'est vrai, ils sont dans une chambre sans clim. Ils sont dans une chambre sans clim et ça fume beaucoup trop. C'est vrai que c'est une autre époque. Hein. Les gens fument beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup de fumée de clope, quoi.
Non, mais effectivement, la puissance du film, c'est que... C'est, et j'ai envie de dire la puissance du genre, parce que dans une certaine façon, c'est un film de genre à part entière. Enfin, le film de procès, finalement, est un genre à part entière. C'est que du cas particulier qu'on étudie, où tout le monde est anonyme, du cas particulier, on va dresser un portrait plus général du système judiciaire américain. Et effectivement, tu as raison, il y a plein de niveaux, et un de ces niveaux, c'est effectivement, à un moment donné, on a failli tuer un homme pour des raisons absurdes, en fait. Pour des raisons absurdes, parce que effectivement tu parlais de celui qui veut être en retard, celui qui en fait a un fils qui le déteste et du coup en fait il se projette dedans, l'autre qui est un centriste sans colonne vertébrale qui se plie simplement aux avis de la majorité, voilà. Et effectivement le film replace sans arrêt l'enjeu, c'est qu'à un moment donné, au milieu de tout ça, où est la justice quand quand finalement tu ne donnes pas sa chance à un homme de se défendre, surtout quand en plus sa vie est en jeu. Et que pour le coup, c'est à la fois un film qui va te réaffirmer les valeurs de ce que devrait être le système judiciaire américain, parce qu'il y a de ça en fait. À un moment donné, le film te montre, mais si on devait appliquer le système judiciaire et si la justice devait avoir un sens, ce serait ce sens-là. Et en même temps, t'as raison, il en montre les limites, puisque tout peut basculer pour les mauvaises raisons. C'est clairement un film anti-peine de mort. Pour moi, il n'y a aucune équivoque possible là-dedans. C'est-à-dire que j'ai parfois lu des gens qui disaient « Oui, mais en fait, la peine de mort, finalement, si le type était coupable, le film n'aurait pas eu de problème avec le fait de le condamner. » Alors, à ce moment-là, c'est pas le même film. Tu vois ce que je veux dire, oui. C'est que ce genre d'analyse n'a aucun sens, puisque c'est pas le même film, puisqu'effectivement, là, le type, c'est ça qui est en jeu, et le film, très clairement, te montre que qu'à un moment donné, tous les éléments... Il est beaucoup plus facile de tuer un homme que de rendre justice, en fait. Et vraiment, le message du film, je pense qu'il est là. Le message profond du film, il est là, il est beaucoup plus facile de tuer un homme que de rendre justice. Et que oui, la justice, c'est compliqué, c'est long, ça demande du temps, de l'humanisme et un petit peu de réflexion. Et comme tu le dis, là, on est sur un procès qui semblait gagner d'avance et qui va basculer, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a ce courage de dire « Mais moi, je ne veux pas être responsable de la mort de quelqu'un sans même y réfléchir à deux fois. » Voilà. Et... D'ailleurs, ce film, cette pièce va être multi-adaptée dans différents contextes par différents cinéastes. Voilà, notamment en Russie, notamment par William Friedkin.
En Russie, par Mikhalkov. D'ailleurs, il est dans la liste. Il est dans la liste des tout devoirs de vacances. Il s'appelle Dvenats.
Ouais, j'ai pas eu le temps de voir.
Ce qui veut dire 12.
Ce qui veut dire 12, c'est ça.
Et lui, par contre, rajoute évidemment, chacun rajoute sa propre sauce de contexte. C'est-à-dire que là, vraiment, on parle de vie et de mort. C'est vraiment la seule chose qui compte, c'est la vie et la mort du jeune garçon. Dans la version russe, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui est un Tchétchène. Et alors, du coup, ça a un autre impact. Et il y a un backup plot, il y a un twist, il y a plusieurs twists qui, évidemment, ça repose sur le même concept. Et c'est à la fois super bien joué et en même temps, c'est un film un peu problématique quand tu réfléchis au bout de deux secondes, quoi. Mais voilà, chacun l'adapte à ça. Et puis il y a eu une version coréenne, il y a eu une version, enfin, il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est vraiment
pour toutes les, à toutes les
et sauces. C'est devenu comme Rashomon un des films les plus référencés ouais. Parce que c'est devenu un archétype. C'est retourner le retournage de jury.
Oui, complètement. Non, mais c'est un voilà c'est devenu un archétype
dans les et séries puis... américaines. Enfin, vraiment, il y avait plein de cas de retournage de jury. Voilà, c'est devenu le truc classique.
Et si le film fonctionne, c'est que donc au-delà de toute cette mécanique narrative qui se met en place de l'interprétation, voilà, Henry Fonda, il est né pour ce rôle. Enfin, c'est vraiment le Henry Fonda qui en plus, enfin le choix est pas innocent parce que à la fois il incarne le gendre idéal parce que avec son physique complètement improbable, ses yeux absolument ahurissants, voilà, un physique complètement extraordinaire, il incarne une espèce d'idéal de l'Amérique que Sidney Lumet va d'ailleurs réutiliser hein, dans d'autres films par la suite, et à la fois il arrive à faire ce lien justement à travers la compassion et sa façon de jouer avec finalement le l'Amérique au sens large, pas uniquement voilà l'Amérique idéalisée quoi, et ils sont peu je trouve à réussir à faire cette espèce de grand écart voilà qui est hyper intéressant, donc voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que on parle de tout ça, donc la mécanique narrative, voilà, l'écriture, les relations des personnages, et voilà les relations qu'on peut entretenir entre sa perception du monde et les expériences qu'on a vécues. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui les biais de validation ou au contraire de rejet. Bah, le film te parle de ça en fait aussi. Et te montre aussi d'ailleurs au passage que le personnage, tu parlais de Jack Warden quelque part, c'est un personnage qui ne veut pas s'impliquer là-dedans parce qu'il a d'autres préoccupations, mais ne pas s'impliquer en fait c'est s'impliquer malgré tout en prenant à chaque fois la pire décision.
Il a choisi d'être, voilà, il a choisi d'être apolitique. Voilà,
il a choisi. Voilà, non mais complètement. Le personnage de Jack Warden, c'est le personnage apolitique, voilà, qui arrive troisième en législatif, qui se retire pas dans sa circonscription et qui se dit non mais moi je fais pas de choix, on peut rien me reprocher.
Ou
bah,
plutôt,
si. En fait, ne pas faire.
Non, je suis pas d'accord. Jack Warden, c'est celui du genre, il va avoir un élu au hasard d'un des extrêmes pour utiliser leur manière de parler, et il va arriver au pouvoir, mais il se dit ça m'intéresse pas. Et je pense c'est la majorité, c'est la majorité des gens.
Ouais.
En tout cas, qui défendent cette opinion.
Ça ne m'intéresse pas, mais en réalité, en ayant cette posture, tu ne fais que confronter la pire des solutions à chaque fois, en fait. Et ce personnage-là parle de ça aussi. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi Sidney Lumet lui-même, en fait, en tant que cinéaste, il arrive à te faire ça. En ne faisant pas du théâtre filmé. Et je pense que c'était vraiment le truc le plus épatant qu'on peut souligner. Et d'ailleurs, je repense du coup à William Friedkin, voilà, qui avait fait une adaptation de 12 hommes en colère, et dont le dernier film, The Kane Mutiny Case, qui est sorti en catimini sur, je crois que c'était Paramount, cette année, qui est un film de procès, et qui justement, lui, n'arrive pas à éviter le côté théâtre filmé. Là, 12 hommes en colère, on est à l'opposé du théâtre filmé, c'est-à-dire que Sidney Lumet va bien avoir en tête la dynamique de chaque séquence, en fait. Et vraiment, c'est, enfin, à nouveau, si les techniques de cinéma et les techniques de montage et de narration par l'image vous intéressent, c'est quand même ce dont est fait la chair et la moelle du cinéma. Si vous intéressez vraiment à ça, c'est un film passionnant à décortiquer, à voir, à revoir, parce que justement, Sidney Lumet va prendre chaque séquence, va identifier la dynamique de chaque séquence. C'est une séquence de suspense, c'est une séquence au contraire de relâche, c'est une séquence de présentation, voilà, enfin. Il va prendre chacune des dynamiques et il va vraiment adapter sa mise en scène à chaque dynamique pour vraiment que le montage et la mise en scène expriment finalement l'enjeu de la séquence, alors que le décor et les personnages sont toujours les mêmes, quoi. Et il arrive à te tenir cette heure et demie sans redondance et avec voilà des à chaque fois l'effet de mise en scène qui va être l'effet parfait pour souligner l'intention. Voilà, il y a notamment ce fameux moment où on va se poser la question de la capacité d'un homme, pour interroger la crédibilité d'un témoin, à se déplacer dans son appartement alors qu'il est... je crois qu'il a une jambe dans le plâtre, ou
genre,
où il est estropié,
comment il a
fait
pour rejoindre cet endroit alors qu'il est venu...
Comment il a fait, ouais. Voilà. Et là, d'un seul coup, en fait, les travelling que va utiliser Sidney Lumet à ce moment-là sont des travelling qui n'a pas utilisé jusque-là, ou pas de la même façon. Pareil, quand tu les vois arriver dans la pièce, en fait, les plans légèrement aériens d'ensemble que tu ne reverras plus du reste du film parce que finalement ils n'ont plus de valeur passé ce moment. Puis les moments de bascule importants où il va utiliser des démontages sur des plans de visage extrêmement serrés. Voilà, je parlais du personnage de Lee Jacob, donc qui est on va dire l'antagoniste principal, puisque c'est le juré le plus virulent contre l'accusé, où en fait ça va être un des rares où ses effets personnels vont faire l'objet d'inserts dans le film, parce qu'en fait ses effets personnels sont un des moteurs de sa conviction de culpabilité de l'accusé. Voilà, enfin t'as plein de détails comme ça en termes de, voilà, donc encore une fois, de mise en scène, l'utilisation que, enfin la façon dont Sidney Lumet va utiliser la chaleur aussi, c'est-à-dire comment est-ce que visuellement tu utilises la chaleur au-delà d'avoir un personnage qui vit oh il fait chaud, voilà, enfin tous ces détails là, voilà, les fenêtres qui s'ouvrent, les volets, la sueur, etc., qui vont contribuer au fur et à mesure à faire augmenter la pression, puisque évidemment, enfin, on sait tous ce que ça fait d'être dans une pièce où il fait chaud, où t'aimerais faire autre chose, et c'est extrêmement désagréable.
Il va te communiquer le truc étouffant, ouais. Car c'est un film un peu étouffant. C'est peut-être aussi
étouffant palpable, en fait.
Heureusement qu'il dure pas si longtemps, parce qu'il est vraiment étouffant en l'occurrence.
Voilà. Et voilà, enfin, tout le génie de Sidney Lumet. Et encore une fois, enfin, c'est son premier film. Moi, je trouve ça d'une maîtrise. Ouais, d'une maîtrise absolue, et si tu t'intéresses au cinéma, à l'histoire du cinéma, et donc, je l'espère, à Sidney Lumet, si c'est pas le cas, c'est vraiment un cinéaste majeur à découvrir, enfin, j'emploie des superlatifs, mais c'est, à mon sens, sont pas galvaudés, tout son cinéma est déjà là, en fait, tout ce qu'il va développer, tout ce qu'il va faire par la suite, tout ce qu'il va réussir par la suite, on a parlé de Network.
C'est du cinéma ultra engagé, et il faut le voir, un truc, c'est que par rapport aux États-Unis, c'est quand même très différent. Et qu'il ne recule pas devant ces sujets, il les embrasse complètement, et on va le voir au fur et à mesure de sa filmo, c'est genre, il n'en démordra jamais, quoi. Et c'est pas un hasard qu'il s'associe à Henry Fonda. Henry Fonda, qui est coproducteur du film d'ailleurs, Henry Fonda, qui était en plus aussi un mec très très engagé à gauche, et là, je pointe le terme pas abusivement parce que. Aux États-Unis, le spectre est très réduit, mais Henry Fonda c'est tellement impliqué dans les luttes démocratiques, dans les luttes, il a traversé les années 50 et 60 qui étaient quand même cruciales de son pays, et de savoir de la gestion du racisme, de liberté fondamentale. Et voilà.
C'était les années du macartisme aussi. Hein,
le macartisme, voilà, oui, voilà. C'est quelqu'un qui a jamais renoncé devant l'adversité à affirmer son opinion, et en tout cas son engagement politique, quoi.
Et mais pas de politique dans mon cinéma, évidemment.
Évidemment,
voilà,
évidemment. Et point commun à Fonda avec Kirk Douglas juste avant, c'est que. Encore une fois, c'est des comédiens qui ont connu la guerre. Ils ont tous servi à la Seconde Guerre mondiale. Les planqués, il n'y avait pas de... Quand tu étais un grand comédien à l'époque, tu t'engageais à la guerre. C'était impensable que... Ou alors, c'était pensable, mais alors tu étais vraiment un planqué et ça a été préjudiciable à ta carrière. La plupart de ces gens ont servi pendant la guerre. Et je pense que ça va influencer aussi le cinéma qu'ils vont représenter. C'est-à-dire que ils sauront, ils savent d'une certaine manière ce qui a été. Ils ont perdu des gens, ils ont perdu de la famille, ils ont perdu des amis. Donc c'est quelque chose qui va être important pour eux. Et c'est rare de dire ça, mais je pense que c'est pas exagéré que de dire que toi, Angry Men, c'est vraiment un film témoignage de son époque, quoi. C'est vraiment un film fondamental dans la compréhension de la manière dont, à la fois des artistes se créent, tu parles de Sidney Lumet, mais aussi dans la manière dont, dont on témoigne de qu'est-ce que c'est qu'une époque. Et je pense que si tu veux savoir, là on parle de 1957, si tu veux savoir ce qu'était 1957, l'engagement politique dans un film, je pense que c'est celui-là, quoi. Je pense que c'est un des films les plus importants, c'est un des films les plus importants du cinéma américain.
Ah ben je pense aussi effectivement parce que évidemment à travers ces 12 hommes enfermés dans la pièce le film est en fait une radiographie de la société américaine voilà et effectivement toutes ces composantes
de la société américaine. Alors ils sont on appelait pour faire des jurés on appelait que des gens blancs hein, à l'époque immigrés blancs. Je veux dire, il y a aussi cet aspect.
C'est un des aspects du film, puisque l'accusé est un jeune homme noir.
Oui.
Et c'est un élément qui est mentionné dans le film. Et voilà. Et il y a un des jurés effectivement qui s'est dit plutôt que de servir la justice, moi je préfère croire Bardella et que ce type est coupable à cause de sa couleur de peau. Donc c'est un des sujets du film aussi. Et justement voilà et vraiment cette radiographie de cette société américaine à ce moment-là, société qui pour le coup on est dans les années 50 donc en plein regain du macartisme conservatrice etc. Mais aussi en plein boom économique, c'est-à-dire que la guerre 39-45 passée, ça a été un levier formidable pour l'économie américaine en termes de mondialisation. La modernisation du Japon qui se fait à marche forcée par les Américains, les tensions qu'il y a eu entre les Américains et certains dirigeants politiques européens, notamment Charles de Gaulle, sur justement cette expansion de l'American way of life, en fait. C'est cette période-là, en fait, pour les États-Unis, en tout cas d'un point de vue politique et d'un point de vue propagande officielle, c'est l'American Way of Life. Et 12 hommes en colère, en fait, lui, ne va pas être un film à proprement parler anti-American Way of Life, mais va nous montrer, en fait, la réalité, finalement, quelque part, la réalité, la subtilité de ce que c'est que les États-Unis des années 50. Et en cela, c'est un film qui est hyper important, d'autant plus, encore une fois, que ma conviction, c'est un film anti-peine de mort et un film qui va aller fouiller finalement ces recoins de l'American Way of Life qu'on montre pas forcément, mais qui en même temps a une véritable foi dans la capacité des valeurs que l'Amérique est censée représenter. Et je pense que c'est ça le plus important, un peu de la manière finalement que vont avoir certains cinéastes un peu désabusés des années 70 ou même plus, ou même John Carpenter dans une certaine manière. C'est-à-dire que ce côté, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pas notre idée de l'Amérique telle qu'on se l'a fait, mais si on élude ces sujets, en fait, c'est la pire des solutions. Et il y a de ça un peu dans 12 hommes en colère. C'est-à-dire que c'est pas un film anti-établissement au sens... c'est pas un film révolutionnaire ou anarchiste, voilà, c'est pas le propos. C'est au contraire un film qui croit en une certaine idée de l'Amérique, mais qui montre qu'en réalité, la pratique, cette idée-là, elle ne s'impose pas d'elle-même et que quelque part vivre sur nos acquis sans, enfin justement considérer les victoires qu'on a eues, qu'elles soient démocratiques ou symboliques, comme des acquis, c'est une erreur parce qu'en fait c'est un combat qu'on doit mener de chaque instant et c'est aussi de ça dont parle ce film, quoi.
Est-ce qu'on aurait beaucoup de choses à ajouter, mais en même temps là j'ai envie de dire si vous l'avez pas vu allez-y. Allez-y vraiment. C'est du vrai, vrai bon cinéma, quoi. C'est un film comme vous en avez très peu en voir dans votre vie. Donc, je pense. Est-ce qu'on s'étend encore ou tu penses qu'on a.
Non, je pense que le seul truc que je peux dire éventuellement, c'est que sur ceux qui seraient un peu rebutés par le côté années 50 et noir et blanc, je pense que c'est pas un problème dans le sens où. même si, comme on l'a dit, le film est ancré dans son époque, beaucoup de choses sont suffisamment actuelles, alors du coup, de façon un peu triste, hein, comme tu l'as rappelé, que ce film quasiment définitif sur le sujet, on est là, 57, on est 70 ans après, en fait, il y a certains trucs qui n'ont pas changé et qui ne vont pas changer.
Et que la peine de mort a toujours cours là-bas, quoi. Cette absurdité, qu'est la peine de mort.
Ouais.
Vraiment, c'est
complètement. Ouais.
Et alors que c'est le propos du film, et ça montre aussi la limite de ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire que.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Tu peux pas complètement tout changer, quoi.
Tu peux pas tout changer, tu peux essayer, voilà. Mais voilà, donc il y a quand même un côté encore actuel et universel. Et encore une fois, là, faut quand même se rendre compte que la puissance de la mise en scène de Sidney Lumet, enfin, est d'une modernité complètement folle. Enfin, c'est aussi en cela, au-delà de tout ce qu'on a dit, encore une fois, que le film est si important dans le cinéma américain d'une manière générale, c'est que on est face à un objet cinématographique absolument époustouflant. Et moi, je sais quand je l'ai montré à mes enfants, mon fils a eu un peu de mal parce qu'on l'a regardé en VO, donc du coup c'est un film on parle énormément et du coup pour lui lire les sous-titres c'est pas forcément facile, mais il a quand même bien accroché en fait, et pour le coup la narration par l'image fonctionnait plutôt bien. Tu vois, même si effectivement il y a certains dialogues qui zappaient parce que les sous-titres allaient un peu trop vite, la narration par l'image, en fait, tous les enjeux, enfin tout, voilà, tout ce langage cinématographique, il comprenait bien. Et ma fille, elle a été complètement conquise par ce qu'elle a vu, quoi. Voilà, ce rapport que ça entretient avec notre notion de la justice aussi, mine de rien, notre conception de la justice. Voilà, ce film aussi est un grand film humaniste, quoi.
Si tu sors de ce film, tu peux pas. C'est comme on en parlait, un film de guerre. Si tu regardes un film de guerre et que t'en es content, c'est qu'il y a quelque chose qui a échoué. Mais si tu regardes ce film et que tu penses encore que la peine de mort est une solution, c'est que ce film ne peut pas toucher ton cœur, ou alors que tu n'as pas compris ce film. C'est
voilà, au choix.
Les deux sont possibles. On va le classer.
Oui, on va le classer. 12 hommes en colère.
Écoute, c'est mieux que Le Chien des Baskerville.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est mieux que Peter Pan. C'est mieux que Sissi Impératrice aussi.
C'est mieux que Le Septième Saut.
Alors, c'est mieux que Le Septième Saut. Voilà. Ils sont pas non plus très nombreux à pouvoir se dire mieux que Le Septième Saut.
Est-ce que c'est mieux que Le Pont de la Rivière Kouai?
Ah, mais pour moi, c'est mieux que Quand la Ville d'Or.
C'est mieux que Quand la Ville d'Or. Est-ce que c'est mieux que Les Sentiers de la Gloire?
Oui.
Je pense que c'est mieux que Les Sentiers de la Gloire. Est-ce que c'est mieux que Le Sueur Froide?
Alors, pour moi, oui. Je trouve que 12 hommes en colère, c'est un film un peu plus essentiel. Alors, tu vois, on en est à quel film est plus essentiel que l'autre? Un peu plus essentiel encore que sur France.
Alors, je t'attrape par le collet et je te demande, est-ce que c'est mieux que Les Sept Samouraïs?
Rah! Alors ça, c'est une vraie, vraie bonne question.
Moi, je pense pas.
Moi, je dirais non, mais ça joue pas. Dans les deux cas, c'est du très grand cinéma. C'est du cinéma comme t'en vois pas, c'est-à-dire que Les Sept Samouraïs, c'est pareil, Deux Hommes en Colère, c'est des films qui ont beaucoup beaucoup été imités, repris, cités derrière,
analysés, oui.
Et tu vois, analysés, enfin décortiqués, refaits sous d'autres façons. Et pourtant, il reste encore indépassable sur tellement de
Écoute,
points.
Écoute, je vais faire une analogie facile à comprendre pour nos fans de jeux vidéo. Sueur Froide, c'est Bloodborne, mais Les 12 Hommes en Colère, c'est Dark Souls. C'est-à-dire qu'il y en a un, clairement, il est plus beau, il est objectivement plus raffiné, il est plus incroyable, sous plein de formes et tout ça, c'est Sueur Froide. Mais je pense que 12 Hommes en Colère... C'est l'essence de ce que tu cherches, quoi. Donc,
je vois ce que tu veux dire.
12 hommes en colère est donc deuxième de cette liste. 12 hommes en colère. On est d'accord, hein, c'est Les 7 samouraïs restants.
Oui, non, bien sûr. Ouais. Ouais.
Donc ça y est, on a un nouveau numéro 2. Et aussi, on a Pauvre Sortier de la Gloire.
Un nouveau numéro 4.
Pauvre Sortier de la Gloire qui descend à peine d'être entré.
Et oui, comme quoi, arriver à la troisième place comme ça, là, ça te prévaut de rien, quoi.
Oui, voilà. Il y a cru et il est plus là.
Il a cru et il est plus là.
Écoute, avant de lancer le Terroco, je veux juste dire, j'ai été voir les Oscars à l'instant, les Oscars de cette année-là. Et c'est une année d'Oscars dont on a parlé parce que, évidemment, c'est une année riche puisque il y a 12 hommes en colère. Qui est nommé, qui a manqué le meilleur réalisateur, qui a manqué le meilleur film. Et
quelle honte.
Il n'y a pas le meilleur acteur. Et alors, tu sais qui gagne ?
Je ne sais plus, on avait parlé à 50... donc, c'est les Oscars 58. C'était qui, 58 ? Ma mémoire m'échappe.
C'est 12 hommes en... c'est pas 12 hommes en colère, donc. C'est le pont de la rivière Kouaï.
Ah oui, c'était le pont de la rivière Kouaï.
Oui. Qui a pas démérité, hein. Franchement, c'est un super film.
Ah non, mais.
Mais je peux comprendre.
Super film aussi.
Je peux comprendre que, voilà. Que les mecs, à l'époque, ils voient le pont de la rivière Kouaï, ils disent ah, c'est ça, c'est vraiment ça.
Bah, en fait, le pont de la rivière Kouaï a pour lui, justement, c'est ce qu'on disait, cette utilisation du cinémascope de la couleur qui est assez, assez fabuleuse. Assez fabuleuse. T'as quand même un effet waouh. Voilà, donc. Mais après, bon. On est quand même sur un très bon film, même si effectivement, à mon sens, si je devais choisir, j'ai pas hésité très longtemps, vous l'avez entendu, à choisir le 12 hommes en colère. Quoi.
Ah, le pont de la rivière Kouaï, il y a un truc... c'est aussi une histoire différente, c'est une histoire de fascination-répulsion, et c'est des boutons différents, je dirais, en termes émotion. C'est-à-dire que...
ah, bien sûr, ouais, oui. Ouais.
Je peux voir ce qui a marqué les gens, hein, bien sûr, mais je peux voir aussi pourquoi les 12 hommes en colère n'a rien eu. Et il a même pas eu meilleure adaptation, ça. Puisque c'est Pont de la rivière Kouaï qui gagne.
Pont de la rivière Kouaï qu'il a eu, ouais. Ouais. Eh oui.
Eh ouais.
C'est comme ça. Bah, il est plus compatible avec l'Académie.
Ouais, voilà. Surtout à l'Académie de 1958. Et bah écoute, ça sera notre dernier film, hein, tu l'auras compris, je quand même.
Oui. Un épisode court.
Un épisode. C'est un vrai blocos là. Hein. Vraiment, c'est deux films.
Ah non, les références aux Allemands pendant la seconde, c'est pas très bon goût en ce moment.
Tu sais que j'ai été souvent. Enfin, quand j'étais petit, on allait. Parce que j'habitais en Normandie, j'allais souvent, et j'y repense, au musée du débarquement de Dieppe. Alors, tu sais que tout le monde parle du grand classique du débarquement des Américains dans 1944, qui s'est fait comme tous les livres d'histoire te le racontent. Mais il y a eu le débarquement sur les plages de Dieppe, en fait, en 1942. Et ça a été un fiasco absolu. Et ça leur a permis de, entre guillemets, de jauger qu'est-ce qu'il faut faire pour un débarquement. Par exemple, ne pas débarquer sur une plage avec des cailloux. En fait, c'est tout bête, mais c'est des choses auxquelles ils n'y pensaient pas. Et je me suis toujours dit que tous ces mecs qui sont arrivés sur la plage, il y en a deux qui sont arrivés au centre-ville, il y a une plaque pour montrer l'endroit où sont arrivés les deux soldats le plus loin dans la ville, quoi. Et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plages à traverser, du coup, il y en a quand même deux qui sont arrivés jusqu'au bout. Mais à chaque fois, je passais sur la plage, je pensais à qu'est-ce que tu as en tête quand tu sais que tu vas à la mort et que tous les mecs derrière toi sont morts et vous êtes que deux et tu sais que tu vas y passer. Enfin, j'y pense toujours. Et à un moment, il y a un cousin de mon père qui, lui, a connu la guerre. Il m'a dit, mais tu sais quoi, le pire, c'est que les mecs qui ont décidé de cette opération militaire où il y a eu des milliers de morts, et tout, eux, ils ont sans doute eu une médaille pour « Ah, quelle belle opération que vous avez menée !» Et sans doute, c'est vrai. C'est une opération... C'est
ah bah oui, c'est sans doute vrai.
Le premier débarquement, il n'y a pas un truc qui est raconté, puisque c'est un échec. Mais c'était essentiellement des Canadiens et des Britanniques qui l'ont mené. Et évidemment, ils ont toute une génération de mecs qui ont payé un lourd tribut. Il y a un cimetière aussi qui est pas loin. Et pourquoi j'y pense, c'est que à l'époque, j'ai visité les blocos évidemment toute la côte atlantique était fortifiée et donc il y avait des blocos partout. Et donc j'ai pu visiter ces blocos qui, je sais pas s'ils sont ouverts aujourd'hui ou pas, parce qu'il y avait un musée et évidemment. C'est un musée que j'adorais. Enfin, j'adorais visiter parce que tu sais, les gamins ont parfois la fascination de la guerre. Ou moi, j'étais très intéressé par la Seconde Guerre mondiale parce que pour des raisons familiales d'abord. Et ce musée a fermé vers, je sais plus si c'était 96, enfin tu vois, quelque chose comme ça. Et je me demandais pourquoi un tel musée ferme alors qu'ils avaient des véhicules de guerre incroyables. Tu t'imagines, tu visites quand même des blocus de la Seconde Guerre mondiale qui étaient intacts. Hein. Et en fait, c'est que les gens aiment pas se souvenir les gens aiment pas se souvenir des échecs.
Et c'est... Bah oui, non, bien sûr.
Et
bah,
c'est ça que et c'est ça qui fait qu'il y a plus de musées consacrés à ça. Il y a que des stèles, mais il y a plus de musées consacrés à ce premier débarquement et je trouve ça assez triste. Et du coup, il ne reste plus que des stèles et tu vois notre manière d'en parler pour raconter surtout à quel point ces mecs ont été envoyés à l'abattoir en fait hein. Vraiment t'imagines arriver sur les plages normandes en 42 devant sur une plage en cailloux et que tu sais que tu vas y passer, c'est vraiment on a parlé beaucoup de guerre hein, dans cet épisode quand même hein.
Oui bizarrement, ouais, bizarrement. Ouais, c'est marrant parce que comme j'ai l'expliqué dans le dernier épisode en date de Discordia, où on a parlé donc de la façon dont le cinéma français traite du Front National, il y a une petite surprise, une petite révélation sur ma jeunesse, pas piqué des hannetons, où j'explique que je passais une partie de ma jeunesse en Bretagne, et les blocos de Bretagne, donc qui du coup n'ont pas servi, ça faisait partie des spots dans lesquels j'aimais me rendre aussi sur tout le long de la côte en fait. C'était aussi un truc qui me fascinait énormément. Quoi.
Ouais, je peux comprendre. Donc voilà, on aura classé deux films, mais pas n'importe quel film aujourd'hui, puisqu'on a classé Les Sentiers de la Gloire et 12 hommes en colère, qui étaient très demandés évidemment. Écoute, il nous reste encore quand même quelques classiques. On va peut-être se rattraper en western la prochaine fois. En sachant que la prochaine fois, peut-être on va switcher. C'est la semaine.
Oui, ce sera. Season finale, ouais. Ce sera
ouais, pas on va faire. On aurait pu se garder ça pour la season finale, mais en fait, ça c'est l'humeur un peu de en ce moment de comment voilà.
Du
voilà.
Moment.
Et en même temps, j'assume complètement, c'est mon humeur aussi hein, de vouloir parler de 12 hommes en colère et Sentier de la gloire aujourd'hui. Je me suis demandé genre est-ce que parler de jeux vidéo, parler de trucs comme ça, est-ce que parfois quand il se passe des choses graves dans la vie et tout, mais en fait si faut continuer de parler et tout. Alors évidemment. On n'a pas pu faire After Eight avec Quicks parce qu'on s'est dit si on fait After Eight on va parler que de ça et c'est pas exactement ce pourquoi After Eight est là mais on s'est dit, je me suis dit avec Stéphane je suis tranquille, on va pas du tout parler politique,
là t'as bien
fait. Je te remercie Stéphane au nom de notre amitié d'avoir joué le jeu.
C'est ça.
Allez balance ta reco Steph.
Et bah du coup, Marocco, alors ça va être une Rocco, mais vous allez voir, c'est le justifié, un peu paradoxe temporel, puisque c'est un film qui n'est plus visible en salle à l'heure actuelle, mais qui j'espère arrivera en VOD ou en DVD bientôt, mais que je voulais vous recommander quand même, parce que justement là je voulais un peu changer de sujet, faire un truc qui mettait un peu de baume au cœur. Ce film s'appelle Comme un lundi, et c'est un film, une comédie de science-fiction sociale japonaise, avec une histoire de boucle temporelle où en fait des employés d'une boîte de communication se revivent inlassablement la même semaine, et évidemment c'est une semaine de boulot pourri, comme ça peut facilement avoir lieu dans le monde de l'entreprise
moderne. Et le lundi en plus.
Voilà, et ça redémarre le lundi, et c'est vraiment, vraiment chouette, c'est-à-dire que t'as à la fois, justement, ce côté un peu social, c'est-à-dire, bah, le sens qu'on met au travail, voilà, le rapport aussi, qui est super intéressant, les rapports des Japonais au travail, voilà, c'est un film qui interroge quand même ce rapport un poil toxique qu'ont les Japonais avec leur sens du devoir et du travail. C'est un film qui va aussi parler qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le travail, est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas une histoire d'équilibre à trouver entre les deux, c'est possible. C'est une piste, et qui à la fois est un film avec plein de moments très très drôles, qui est un film qui s'éternise pas, je crois que c'est 1h25, un truc comme ça,
qui est très bien joué en plus hein.
Ouais, les comédiens sont super. Voilà, la boucle temporelle, c'est bien utilisé. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est bien utilisé. Il y a des passages qui sont très, très, très drôles. À nouveau, il y a un passage que je vous citais, mais moi qui me fait mourir de rire. C'est justement le moment où ils essaient de faire comprendre à leur boss qu'il y a une boucle temporelle et qu'ils sont enfermés dedans. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire comprendre à leur boss qu'ils sont dans une boucle temporelle? Un PowerPoint. Et voilà. Et c'est vraiment le détail qui me fait mourir de rire parce que ça en dit tellement justement sur ce rapport à l'absurdité du travail et des conventions du travail. Et c'est plein de petits détails comme ça, en fait, voilà, qui fonctionnent vraiment très très bien. Et que c'est un film que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir. Donc je vous invite, dans les. Là, il était sorti au mois de mai, je crois, ou avril peut-être, fin avril, mai. Donc d'ici la fin de l'année, octobre ou novembre, vous devrez l'avoir en VOD.
Je l'ai vu en festival l'année dernière et je l'ai recommandé dans Soumima Sen Turbo, une émission de qualité.
De qualité, c'est
donc,
ça.
Donc non, c'est vraiment pas mal. Hein, c'est vraiment, et surtout, il y a un vrai. Vraiment, j'étais surpris par la vivacité des acteurs et tout. C'est vraiment. Et j'adore le symbole qui est le symbole de mémoriel, c'est-à-dire pour se souvenir de d'où ils sont, comment ils sont. Ils ont un petit symbole assez rigolo
et on va pas le faire parce qu'en fait c'est très bruyant. Mais...
C'est bruyant, mais en même temps, c'est quoi, à chaque fois j'y pense, je me dis, ah, on devrait avoir un petit symbole comme ça pour se rappeler qu'on n'est pas dans une chronie ou dans un truc un peu fou. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Moi, je vais recommander un autre jeu qui s'appelle Dave the Diver. Est-ce que tu t'en as entendu parler?
Oui, j'en ai entendu parler, mais alors vraiment de très très loin. Je sais pas plus que ça, quoi. Je sais qu'il existe et je sais que des gens en ont parlé récemment.
Alors, c'est un jeu qui est un chouïa roguelite, mais pas complètement, qui est à la fois un action RPG, mais en même temps où tu manages un restaurant de sushi.
Et oui, mais alors je crois que c'est pour ça que j'en ai entendu parler, parce qu'il y avait eu un DLC avec Godzilla.
Voilà, j'allais y arriver. Donc
voilà, c'est là où j'en ai entendu parler, en fait. Voilà,
d'accord. Le jeu est sorti l'année dernière sur pas mal de plateformes, et là il vient de ressortir en version console partout et enfin version cartouche comme on dit. Il est sorti sur PS4 là il y a pas longtemps, et moi je l'ai pris sur version Switch anniversaire. Et la particularité aussi, c'est, oui, tu viens de le préciser, c'est qu'il y a des DLC, j'y reviendrai. Tu plonges chaque jour, tu pêches des poissons, mais en même temps, tu as des quêtes. C'est un humour qui me fait beaucoup penser aux jeux point and click des années 90, genre Sierra, genre Lucas, tu vois, c'est vraiment un humour comme ça, puisqu'en plus, les personnages sont en pixel art, ou plus ou moins en pixel art, donc du coup, ça... T'as l'impression que t'as l'impression que c'est un jeu un peu d'un autre temps, mais fait avec les outils d'aujourd'hui. C'est un jeu qui a été développé par des Coréens, figure-toi. Et je pense que c'est assez intéressant de voir que tout d'un coup, ils font un jeu qui prend beaucoup de la culture japonaise, puisque t'as un chef, ça parle de sushi quand même. Et t'as un chef qui ressemble vraiment, vraiment, il est assez incroyable. Un espèce de grand mec noir avec des lunettes qui est ultra charismatique et qui découpe du poisson dans des cutscenes assez improbables. Il y a un mélange de gameplay parce que c'est à la fois un petit peu action, action réflexe, un petit peu jeu musical par moment, mais aussi un peu action RPG et donc le DLC puisque c'est Godzilla qui arrive. Godzilla avec la musique, avec Ebira aussi qui est au programme. Et oui, c'est plutôt chouette. C'est vraiment... tu passes un moment, et alors je précise, les DLC de cet éditeur sont tous gratos en fait, mais limités dans le temps. C'est-à-dire que si tu veux jouer Godzilla, toute l'histoire de Godzilla, d'abord il faut aller très loin dans le jeu, dans Dave the Diver, mais comme j'y ai pris plaisir, il n'y a aucun problème. Mais en plus, c'est limité dans le temps, je crois que ça s'arrête dans 2 mois ou 3 mois, enfin, c'est des offres limitées dans le temps, ouais. Mais elles sont gratuites, donc d'accord. Il faut être là juste au moment de la sortie, et c'est un peu leur méthode de travail. Il faut le télécharger au moment de sa sortie, voilà, c'est ça. J'y ai pris vraiment plaisir, je vous recommande vraiment, vraiment ça. J'ai passé un super moment. Le DLC Godzilla est donc, il est sorti au mois de mai, et voilà, et c'est vraiment vraiment super bien. Et c'est pas très cher parce que c'est un jeu entre guillemets indé. Alors, c'est un très très gros éditeur en Corée qui a fait fortune avec les jeux en ligne et tout ça. Mais du coup, ils se sont dit, je sais pas comment ils gèrent leur budget, je sais pas comment est leur modèle économique, mais ils se sont dit, ouais, notre jeu offline, là, notre jeu standalone, on va mettre toutes les DLC gratos. Je sais pas comment, c'est peut-être bizarre comme méthode de faire, mais en tout cas, je trouve ça pas mal. Donc voilà, ça s'appelle Dave the Diver et c'est disponible sur à peu près tout ce que vous voulez.
Et très bien. Non mais je note.
Et il est sur Switch et je trouve que sur Switch c'est un peu la bonne plateforme pour y jouer. Cet épisode est terminé maintenant, Steph.
Oui, tout à fait.
On remercie tous les gens qui l'ont écouté, on remercie tous les gens qui nous soutiennent, on remercie tous les gens qui donnent sur patreon.com/rpu. Et je pense pas qu'il y ait des gens de l'autre camp qui donnent un peu, je pense pas.
Non, on remercie aussi tous les gens qui se sont désistés alors qu'ils sont arrivés troisième dans les triangulaires.
Oui, ça.
Merci à eux.
Écoute.
C'est vrai. Hein. Quel qu'ils soient, on les remercie.
Merci d'avoir une colonne vertébrale.
Ouais. C'est ça, merci à tous.
Et c'est pas dit, hein, tu vois, parce qu'on s'est moqué de Ciotti. Mais on va continuer.
On va continuer, je crois.
On va continuer. Ah putain, quel repoussoir, mec. Putain, c'est incroyable.
Mais en plus, Ciotti, enfin, c'est vraiment la frustration de Ciotti, c'est que on pourra même pas le tondre.
Oui, c'est vrai.
Tu vois.
Et mais
on n'aura même pas cette satisfaction.
Ça te fait un point commun avec lui, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça. Mais j'espère que c'est le seul. j'espère que c'est le seul.
Allez, on se dit à la prochaine. Il nous reste encore quelques films de Kubrick. Il nous reste encore quelques westerns. Il nous reste quelques grands classiques. On n'a pas fait tous les Hitchcock des années 50. Loin s'en faut. Et
on n'a pas fait tous les Kurosawa non plus.
On
n'a voilà.
pas fait tous les Kurosawa. Ah bah non, oui. Bah
non. Non, il nous en manque. je dis ça comme ça.
C'est vrai. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Et on vous dit. Où que vous soyez, à quelques moments que... Où que vous soyez, on vous embrasse très fort et on pense à vous, on est avec vous, et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Ciao à tous, merci.
Ah ouais, toi tu fais juste ciao à tous, merci.
Ouais, ça suffit. Ouais. Tu veux que je dise quoi encore qu'il faut faire barrage c'est ça que tu veux m'entendre dire hein, et ben voilà.
C'est toi le signataire.
C'est vrai, c'est moi le signataire. Ouais. Faites barrage aux moustiques parce que la saison revient et franchement les moustiques ils votent Rassemblement National, j'en suis sûr.
Il y a beaucoup de moustiques chez toi.
Franchement, jusqu'à maintenant, non. Mais là, depuis deux jours, il commence à revenir. Donc, c'est comme ça.
Improduction RPU.